J'en parlais en début d'émission de ce texte paru dans la section débat de la presse le 20 mars dernier, intitulé « Des centaines de femmes disparues du marché du travail ». J'ai au bout du téléphone l'auteur du texte, Madame Anouk Lanouette-Turgeon. Bonjour.
Bonjour.
Madame Lanouette-Turgeon, on va le mentionner pour le bénéfice de nos auditeurs aussi, vous faites aussi partie du mouvement « Parents jusqu'au bout ».
Oui.
Donc, ce texte que vous avez publié il y a quelques jours, à l'intérieur, vous parlez du fait que lorsque un enfant lourdement handicapé requiert des soins importants, souvent l'un des deux parents abandonne son emploi et c'est presque toujours la mère qui cesse de travailler. Selon vous, c'est dû à quoi?
Ben, il y a sûrement vraiment plusieurs facteurs. J'ai pas moi-même fait de recherche approfondie sur le sujet, mais bon, ce que j'ai entendu autour de moi, ce que je vois, ce que j'entends le plus souvent, c'est souvent que soit la mère, c'est elle déjà qui s'occupe le plus de l'enfant parce que souvent elle a pris un congé de maternité plus long, puis elle peut pas retourner travailler après le congé de maternité. Donc, par défaut, c'est comme elle qui s'occupe de l'enfant. C'est un choix aussi, là, mais bon, disons que c'en est un ou c'en est pas un. Il y a aussi dans certaines familles, c'est la femme qui va faire le salaire le moins élevé. Donc, après consultation entre les conjoints, on fait le choix que, bon, dans le fond, ça serait, puisqu'on doit se priver d'un salaire, c'est quand même... ça va avoir moins de conséquences néfastes si on se prive du salaire le plus faible. Cela dit, on en connaît quelques pères qui ont, eux, la charge de l'enfant handicapé à la maison. C'est pas...
C'est pas exclusif aux mères.
Mais disons que c'est pas la majorité des cas.
Mm-hmm. Et justement, ces deux éléments que vous soulevez qui sont quand même importants, la première chose à laquelle on pense, c'est la conséquence sur le revenu familial lorsqu'un des deux parents cesse de travailler.
Bien, c'est certain que c'est vraiment c'est des situations où les familles se retrouvent régulièrement étranglées là, au niveau financier parce que le conjoint, le père, c'est pas non plus facile d'avoir la charge, toute la charge financière quand faut savoir aussi que les dépenses augmentent quand on a un enfant handicapé, surtout lourdement. Ça coûte pas rien. Là. Il y a des services dans le système public, mais bon, adapter un appartement ou un domicile, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Il y a des subventions, oui, qui vont couvrir à peu près le dixième là, des frais. Donc, il faut être conscient de ça, que c'est vraiment non seulement nos revenus baissent, mais les coûts augmentent. Donc, on a régulièrement, nous, des témoignages de parents qui ont... qui perdent leur maison, qui se séparent, parce que c'est... évidemment, c'est des situations difficiles psychologiquement aussi, là, mais si on considère juste strictement le niveau financier, là, ça donne des situations très problématiques.
Et on le mentionnait, il y a quand même des pères qui se retrouvent à la charge avec les enfants à charge, mais pour la femme, c'est aussi ça signifie parfois la fin d'une carrière, ou même si on se retrouve avec une diminution des revenus et de l'autre côté, des dépenses qui sont essentielles, qui augmentent, ça peut parfois aussi mener à la fin de la vie sociale, d'une certaine forme de vie sociale, hors de la maison.
Oui, bien, en fait, c'est ça aussi le plus lourd, moi, je trouve. Parce que, bon, moi, j'ai la chance, justement, comme je l'expliquais dans le texte que j'ai publié, mais j'ai la chance d'avoir pu conserver un emploi parce que j'ai un employeur compréhensif et que j'ai un conjoint qui a un horaire atypique aussi, donc on se relaie à la maison pour s'occuper des enfants. Mais il y a beaucoup de femmes, toutes jeunes, qui commençaient à peine leur carrière et qui vont devoir l'abandonner, qui pourront peut-être jamais retourner sur le marché du travail ou quand on s'absente plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans du marché du travail, comme on peut pas revenir là facilement non plus. Donc, c'est un deuil vraiment... important, puis c'est la vie professionnelle va aussi avec justement un ressourcement au niveau psychologique. Bon, tu sais, sortir de la maison, ça fait du bien à tout le monde, là. Je connais personne pour qui ce serait c'est la joie là, d'être toujours enfermé chez soi, là. Donc c'est certain que les mères qui arrêtent de travailler, bon, dans certains cas, vont quand même réussir à maintenir un minimum de vie sociale, mais c'est sûr que le handicap de l'enfant affecte aussi cet aspect-là. Donc, c'est des familles qui sont souvent beaucoup dans l'isolement, qui sont... Bon, il faut... C'est ça, moi, je mets beaucoup l'importance sur le réseau. Il faut ne pas s'isoler. Il faut faire l'effort de vraiment demander l'accès à toutes les ressources auxquelles on a droit, mais aussi ne pas s'oublier complètement comme mère, comme femme, comme amie, comme sœur, ou bon, essayer de maintenir des liens en dehors, des activités en dehors de la maison, mais c'est pas facile.
Tout à fait. Et le travail aussi, dans ce cas-là, joue un rôle important dans votre équilibre, dans la santé mentale, dans l'estime personnelle, qui sont des aspects très importants de la vie à considérer. Vous le mentionniez, vous avez un emploi, vous êtes conseillère en emploi auprès des immigrants.
Oui.
C'est justement le hasard un peu du fait que votre conjoint a un horaire atypique qui vous permet de travailler, d'occuper un emploi. Ça prend par contre un employeur qui est compréhensif. Comment est-ce que ça a été reçu, du côté de l'employeur, de faire cette conciliation travail-famille qui est, ma foi, particulière?
Oui, en fait, parce que non seulement, bon, j'ai un emploi à temps partiel, j'ai gardé le même emploi que j'avais avant mes congés de maternité, mais autrefois, je travaillais à temps plein et maintenant, c'est 20 heures semaine seulement. Donc oui, j'ai un employeur extrêmement compréhensif. C'est exceptionnel peut-être, mais moi, je considère que ça ne devrait pas l'être. Mais oui, c'est une situation où, bon, chaque entreprise ou chaque organisme est constitué différemment, mais nous, c'était possible, dans le fond. L'emploi que j'occupe, je partage mon bureau avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a l'espace suffisant pour finalement que tout ça puisse se combiner, puis ça fonctionne. Mais effectivement, on a beaucoup de témoignages de beaucoup de parents qui perdent des emplois à répétition parce qu'ils doivent s'absenter régulièrement du travail de façon imprévue parce que, bon, il y a les suivis médicaux qui sont prévues, mais il y a aussi les hospitalisations fréquentes qui sont imprévues. Donc, puis moi, bon, j'ai la chance de pouvoir même, j'ai pas un horaire fixe. Tu sais, je fais 20 heures par semaine, mais mes heures sont pas tout le temps au même endroit parce que justement, j'ai des rendez-vous. J'ai deux enfants handicapés, donc j'ai des rendez-vous. J'ai un horaire très chargé. Donc, j'ai cette liberté-là. Puis ma directrice, justement, considère, elle, que c'est une forme d'accommodement raisonnable, au fond. Tu sais, elle m'a vraiment, parce que je l'ai remerciée récemment, justement, d'avoir cette compréhension-là. Puis elle me disait, ben, tu sais, la diversité, ça doit pas être seulement ethnoculturel. Tu sais, parce
Tout
que,
à
bon,
fait.
nous, on travaille avec les immigrants, donc on est dans cet esprit-là, là, de diversité. Mais ça doit pas être seulement ethnoculturel. Elle dit, il faut, pour certaines personnes, donner des conditions qui vont leur permettre de s'épanouir, même si ce n'est pas des conditions typiques et des conditions rigides. Il faut avoir cette souplesse-là. T'sais. Donc, c'est d'une beauté et d'une intelligence que je trouve remarquable, que je
Absolument.
souhaiterais à plus d'employeurs. Mais c'est malheureusement pas le cas.
C'est pas encore le cas, mais bon, parents jusqu'au bout y travaillent aussi. Dans votre article, vous évoquez tout de même le fait que beaucoup de parents et beaucoup de mères développent toutes sortes de compétences, toutes sortes de connaissances en sciences infirmières, en physiothérapie, en ergothérapie, en gastroentérologie, en neurologie, en éducation spécialisée, du fait que vous accompagnez vos enfants justement dans le système de la santé.
Oui.
Ces connaissances-là, elles sont sous-estimées et bien entendu, elles ne sont pas rémunérées.
Non, tout à fait, parce que j'en parlais hier avec mon conjoint qui lui aussi là se sent en train de devenir infirmier là. C'est vraiment ça. C'est pas des compétences qu'on avait prévu acquérir, mais c'est réel là. Tu sais, quand tu sors de la machine à suction sur ton enfant, de machine à oxygène, que tu fais du clapping, que tu donne des gavages, bon, qu'on appelle aussi en langage plus scientifique l'alimentation entérale. Bon, j'aime pas vraiment le mot gavage, c'est un peu, on voit une oie se faire gaver, là, mais bon,
Ouais, c'est un
oui.
peu brusque.
Oui, mais c'est quand même le mot qui est utilisé partout dans le système de santé. Bref, c'est des soins vraiment complexes. Puis, c'est des compétences réelles, là. Tu sais, c'est pas. C'est sûr qu'on ne devient pas neurologue, là. On n'a quand même pas l'équivalent d'un doctorat, mais je veux dire, en termes pratiques, en termes de compétences, là, techniques ou en tout cas de soins à prodiguer, on est minimum infirmière auxiliaire, là, je dirais, là. En tout cas, bref. bien, on est multitâche, là, c'est sûr, parce qu'il faut faire de la stimulation, il faut faire les exercices de physiothérapie, justement, ergothérapie, stimulation du langage pour les enfants qui sont rendus là. Bon. Donc, c'est des tonnes de connaissances et de compétences vraiment qui sont absolument, qui passent en dessous du radar, là, qui n'existent pas, qui ne sont pas reconnues d'aucune façon. Donc, nous, en fait, on ne demande pas un salaire comme tel, parce que ce serait bizarre d'avoir un salaire pour nos enfants, pour s'occuper de nos enfants, mais en fait, on veut un soutien financier qui serait équivalent à ce que les familles d'accueil peuvent recevoir pour des enfants qui ont des soins complexes à recevoir.
T'sais. Justement, oui, ben parce que parents jusqu'au bout ont pour objectif de donner rapidement l'accessibilité à une aide financière aux familles avec
Oui.
Des enfants lourdement handicapés. On a vu récemment la présence du mouvement à l'émission Tout le monde en parle, entre autres. Bon, il y a eu certains engagements qui ont été amenés et des démarches auprès des ministres Charbonneau et Barrette. Quels sont justement ces principaux objectifs? Qu'est-ce que vous demandez pour vous soutenir?
Bien, en fait, nous, initialement, on demandait la création d'un régime parental pour enfants lourdement handicapés, un peu sur le modèle du régime parental de paternité-maternité, là, pour les congés parentaux. On s'est vite fait répondre que de créer quelque chose de complètement nouveau, ça serait vraiment long, ça serait vraiment compliqué. Donc, on nous a proposé de plutôt se greffer à une structure déjà existante. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a trouvé, en fait, qu'on a découvert l'existence des familles d'accueil de proximité, en fait, plus précisément. C'est-à-dire que si, par exemple, un enfant ne peut plus être dans sa famille, on va vérifier autour de lui s'il y a un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère qui peut le prendre, donc quelqu'un qui est déjà que l'enfant connaît déjà, qui est dans sa famille proche. Et donc, ces familles d'accueil de proximité reçoivent une rémunération, reçoivent un soutien financier pour s'occuper de l'enfant. C'est modulable selon le niveau de soins qui est requis par l'enfant. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'être accepté comme famille d'accueil de proximité. Il n'y a pas plus proche que la famille directement naturelle d'un enfant, évidemment. Ou un soutien équivalent. C'est pas obligé d'être ce programme-là auquel on se greffe. On est ouverte à la discussion et à d'autres possibilités, mais nous, disons, c'est ça qu'on propose. Et on demande aussi l'ajustement du... parce qu'au niveau provincial, on reçoit un supplément d'allocation familiale quand on a un enfant handicapé, mais c'est un mini-supplément qui n'est pas du tout ajusté en fonction de la lourdeur du handicap ni du revenu familial. Donc, c'est un peu absurde. On demande aussi donc l'ajustement de cette prestation-là, précisément, là. Mais puis la reconnaissance comme famille d'accueil de proximité, ça nous permettrait aussi d'avoir accès, par exemple, au transport ambulancier sans frais, parce que il faut considérer qu'il y a dans les enfants très handicapés ou à besoins complexes, il y en a beaucoup qui doivent se rendre régulièrement à l'hôpital de façon urgente, puis on peut pas. On peut pas ne pas appeler l'ambulance quand c'est urgent, là. Ça serait irresponsable. Mais il y a des enfants qui prennent l'ambulance 3-4 fois par mois, là. Ça coûte 200, entre 130 et 200 quelques dollars à chaque fois. C'est impossible pour les familles de payer ça, de maintenir le rythme de ces frais-là. C'est exorbitant. C'est ça. Disons, le statut de famille d'accueil donne accès à plusieurs exemptions de certains frais. Donc, si on ne l'obtient pas par le statut de famille d'accueil, on veut l'obtenir de toute façon parce que, justement, on a un fardeau énorme déjà psychologique, puis on se dit vraiment qu'au moins si le fardeau financier pouvait être un peu allégé, ça serait beaucoup plus respirable.
Tout à fait. Donc, dans certains cas, ça ne permettrait peut-être pas que les femmes reviennent toutes sur le marché du travail, mais au moins elles auraient un soutien financier et qui reconnaîtrait aussi leur implication, leur travail qui est du travail invisible. On va en parler dans une émission la semaine prochaine de cette importance du travail invisible, notamment auprès des enfants handicapés.
Ouais.
On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Madame Annick Lanouette-Turgeon. Je rappelle que c'est grâce à votre article « Des centaines de femmes disparues du marché du travail » paru dans la presse le 20 mars dernier que vous nous avez ouvert les yeux sur une certaine réalité des familles avec des enfants lourdement handicapés. Merci beaucoup et on va se tenir au courant de ce qui se passe avec Parents jusqu'au bout.
Merci à vous.